Interview.
1 Terre. L'interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour RDWA sur 107.5 FR et www.rdwa.fr. Aujourd'hui, avec moi dans le studio, Caroline Roussel de l'association YUG, qui propose de façon chronique des cours de Hatha Yoga et qui est venue à la radio annoncer le prochain stage d'Hatha Yoga, joint à une conférence sur l'Ayurveda, qui aura lieu le dimanche 23 novembre de 9 à 12 et de 14 à 18 heures au dojo du gymnase de Die. Bonjour Caroline.
Bonjour.
Tu es venue nous parler de ce stage, mais je sais que tu fais des cours de Hatha Yoga. Hein ? Est-ce que tu pourrais nous rappeler ce qu'est le Hatha Yoga avant de passer à ce qui se passera ce dimanche 23 novembre ?
Ok, oui, le Hatha Yoga, c'est un exercice du souffle humain. Il y a plusieurs manières d'aborder cet exercice qui peut devenir un art, quand même, quelque chose de très subtil. Il y a plusieurs manières de travailler ça. On peut le faire par de la méditation, par de la respiration toute seule, des mantras. Le Hatha Yoga, c'est une pratique qui propose de travailler le souffle à travers le fait de réaliser des postures de tout le corps dans son ensemble. Donc ensuite, dans le Hatha Yoga lui-même, il y a plusieurs écoles, plusieurs styles, mais qui gardent quand même en commun l'idée de travailler le souffle par l'enchaînement de différentes postures. Et ça demande un effort, le Hatha Yoga. C'est pas je reste assise ou je prends une position et je fais de la contemplation. Non, c'est vraiment, ça requiert toute notre attention et toute notre énergie physique aussi. On n'est pas en repos du tout. Par contre, dans la pratique que moi je propose, c'est une alternance entre l'effort et le relâchement qui crée un rythme, qui est l'effort premier à suivre. Il y a différents styles de Hatha Yoga. Par exemple, Adi en a beaucoup. Il y a le Hatha Yoga de Iyengar, donc là qui est très axé sur la technique posturale. Et au début de la pratique, c'est moins important de s'attacher au souffle, ça vient par la suite. Il y a le yoga de Valentin, qui est du yoga Kundalini. Donc là, qui est très diversifié, il y a des mantras, c'est très très tonique. C'est vraiment une autre approche qui est très intéressante aussi. Et il y a le yoga de Jeannot, bon, donc qui est de l'école Van Lisbeth, mais qui a mis sa patte à lui dans ce qu'il fait.
Qui a même promu le yoga sur chaise.
Ouais, ça c'est très bien qu'il y ait des personnes qui développent comme ça des choses adaptées. Parce que bon, c'est sûr que la pratique au départ, elle vient d'Inde, hein, donc c'est sûr qu'elle n'est pas forcément adaptée à nos conditions ici.
Et puis pour lui en particulier, il s'adresse souvent à des seniors en fait.
Oui.
Dans des centres de résidence, je crois,
oui.
Aux personnes âgées.
Oui. Donc ça, c'est voilà, il y a tout un tas de façons d'aborder la question, mais en gros, voilà, on met pas forcément toutes les priorités au même endroit selon les écoles, mais en gros, il s'agit d'exercer. C'est un exercice d'exercer, de s'exercer, de s'entraîner à travailler le souffle à travers un effort physique. Et cet effort physique, donc après, moi, je vais parler plus de mon école à moi. Donc c'est le Hatha Yoga traditionnel. C'est la Fédération Française de Hatha Yoga, FFHY, à Paris, qui transmet ça. Le maître d'origine, il s'appelle Shri Mahesh, il est mort depuis quelques années. Et voilà, il a transmis une manière de faire qui est très basique, enfin, moi, selon moi, qui est très basique, et c'est vraiment revenir aux lignes justes, mais sans s'arrêter autant que, par exemple, le fait Iyengar sur la technique corporelle. Et la question, c'est plus l'effort est plus axé sur le fait de ne jamais laisser tomber l'attention qu'on a sur le souffle. Donc chaque posture est guidée avec une direction dans le souffle et chaque effort est marqué par un temps d'arrêt dans une suspension du souffle. Donc soit à l'expire en poumon vide, soit à l'inspire poumon plein, soit les deux alternativement. Et donc, c'est cet aller-retour avec des moments où on mobilise à la fois le corps, le souffle et donc notre attention, parce que là, pour coordonner tout ça, on pense à rien d'autre, et des moments où on relâche tout, et le corps, et le souffle, et l'attention, et où là, on laisse faire naturellement ce qui vient. Donc, si ça baille, ça baille. Si ça vibre quelque part, si ça tremblote, on observe, on se met en non-action et on voit ce qui se passe. Et de fois en fois, là, se construit vraiment quelque chose qui, à travers cet exercice, prépare tout l'être, donc à tous les niveaux, mental, physique, à être plus adaptable. En fait, je dis ça parce que, pour moi, le Hatha Yoga, c'est pas une fin en soi non plus. Le but de la pratique, c'est pas de devenir une personne qui va réaliser des postures parfaites ou qui va avoir une hygiène de vie ou une morale de vie ou je ne sais quoi d'absolument bien adéquat à la tradition qu'il y a derrière. C'est pas ça. L'intérêt, c'est d'apprendre à mobiliser, à agir sur notre souffle, le nôtre. Ni celui des autres, ni le grand dans le cosmos, juste le nôtre, celui qui fait le lien entre notre état d'esprit et notre corps.
Si je devais résumer, peut-être le but du Hatha Yoga, ce serait d'aller bien, non ? Ou pas ?
Ben ouais, ça peut. C'est un bon résumé. Ouais.
Parce que le fait de faire des étirements, ça attire des muscles dont on a peut-être de temps en temps oublié de se servir ?
Oui, tout à fait. Il y a le côté après de bonne santé physique, bien sûr. Enfin, c'est pas après, c'est en même temps, où tous les étirements avec les suspensions du souffle créent un nettoyage et éliminent les tensions, autant dans les muscles que dans le mental. Et c'est ce nettoyage répété en rythme et régulier qui permet effectivement d'avoir ce résultat, d'être mieux adapté, mieux adaptable en tout cas. Voilà. Donc, disons que le Hatha Yoga que moi je transmets de Youg et de la Fédération française de Hatha Yoga, la spécificité au niveau technique de comment se passent les séances, c'est la suspension du souffle. Voilà. Par rapport, c'est ça qu'on ne trouvera pas dans les autres yogas, en tout cas, a dit. C'est ça la spécificité de ce yoga-là, quoi.
Je peux corroborer puisque je pratique le yoga Iyengar avec René, donc.
Ah oui, René.
Voilà,
ouais.
C'est que bon, on ne se concentre pas plus que ça sur le souffle, effectivement. Et j'apprécie fortement l'aspect désacralisé de ces exercices. Hein. Tu l'as pas forcément dit, mais il y a des yogas qui sont plus ou moins mystico-spirituels, etc., qui impliquent une union avec le grand tout et qui pourraient perturber certains. Et je ne sais pas si on le retrouve dans ta version du Hatha Yoga.
Non, moi, je n'ai pas entendu trop ça, ni dans l'enseignement que j'ai reçu. Après, ça n'empêche pas qu'il y ait des personnes qui soient dans cet état d'esprit et qui l'insufflent dans la pratique. Et en tout cas, ce n'est sûrement pas mon état d'esprit à moi, parce que en fait moi j'ai commencé le yoga très jeune en centre-ville et j'étais complètement à 10 000 lieues de ce genre de mode de pensée et je n'aurais pas pu le faire si ça m'avait été transmis sous cette forme-là. Donc je suis restée très proche de l'enseignement que j'ai eu au départ, qui est assez concret et qui n'est pas du tout, voilà, le grand tout ça, j'en en parle jamais, quoi. Voilà.
Toi, tu as pu constater que les gens bénéficiaient de pratiquer le Hatha Yoga et sur leur corps et puis subsidiairement sur leur esprit.
Oui, bah ça, visuellement, en quelques mois, voire quelques semaines parfois, les résultats sont visibles au niveau de la façon dont les personnes sont capables de s'étirer, bien sûr, mais aussi d'être en silence, de rester un peu immobile, de pas toujours bouger dans tous les sens pour être moins nerveux et nerveuse, d'être beaucoup plus présente, d'aller plus librement dans le mouvement de l'étirement. Donc ça, c'est d'ailleurs super beau à voir et c'est mon spectacle à moi, du coup, parce qu'il n'y a que moi qui vois ça sur tous mes élèves. Quand je donne le cours, j'ai un peu une chorégraphie en direct, là, c'est vraiment super chouette. Et après, bon, au niveau mental ou psychologique, bon, ça, c'est plus personnel. Oui, c'est sûr que, par exemple, bon, il y a des gens qui témoignent du fait qu'ils dorment mieux, voilà, qu'on est plus tourner vers chaque chose qu'on fait. Donc, par exemple, plus attentive ou attentif quand on mange à ce qu'on est en train de faire. Voilà, il peut y avoir tout un tas de choses qui sont témoignées, oui, individuellement par les gens.
Justement, quand tu me dis qu'il faudrait être à la fois dans le souffle et dans l'étirement, consacrer son attention à deux choses en même temps, n'est-ce point trop dur ?
Alors, j'aurais envie de répondre beaucoup de choses, mais je vais rester concentrée sur une seule chose à la fois, puisque c'est ça le but du yoga. Mais justement, le fait d'avoir l'attention portée à la fois sur le souffle et sur le corps, c'est une feinte un petit peu qui est proposée à l'élève pour qu'il n'ait pas la possibilité à aucun moment de laisser son esprit s'évader et être dirigé par autre chose que ce qu'il est en train de faire, et en particulier le souffle. Donc en fait, une fois que notre attention est attirée sur ce qu'on est en train de faire avec le corps et sur ce qu'on est en train de faire avec le souffle, on ne peut rien faire d'autre avec le cerveau. Et ça, ça crée une pause. Parce que le but du yoga, c'est de limiter, voire de faire disparaître, si c'est possible, en tout cas de limiter au maximum les fluctuations du mental. Donc ça, c'est une feinte qui est proposée au départ, mais qui n'est pas maintenue en permanence, puisque entre chaque effort, il y a un temps de relâchement où là, on laisse faire et on observe. Donc, c'est pas non plus une discipline comme ça, complètement à la dure, comme à l'armée. Voilà, on fait ça et pas autre chose. C'est on le fait, on contraint l'esprit et on le relâche. On le contraint et on le laisse libre. Et quand on le laisse libre, on y apporte toute son attention. Et c'est cette attention aussi qui va nourrir le fait que ça progresse, quoi. Que ça soit bénéfique.
Alors, pourrait-on imaginer que si tu fais un exercice à l'envers, c'est-à-dire qu'au lieu de faire ton étirement, tu souffles, au lieu d'inspirer, ça puisse avoir des contre-indications ?
Ah, si on place mal le souffle ?
Oui.
Oui, oui. Alors, le travail du souffle, bon, c'est pas non plus systématique. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble de postures. Si on inverse, c'est pas grave. Il y a certaines postures, je ne l'ai jamais fait et je ne m'y risquerai pas, où je pense qu'effectivement, inverser, là par contre, ça commence à être délicat, voire contre-indiqué. Et il y a un certain nombre d'autres cas où vraiment, là, on doit pratiquer ça qu'avec quelqu'un qui nous guide. Voilà, parce qu'il y a un côté où travailler le souffle, ça peut être très libérateur, parce que comme on devient de mieux en mieux adaptable, on devient plus libre par rapport aux contraintes, on peut se sentir plus libre, mais il peut aussi, si on le fait à l'envers, avoir un effet qui rend de plus en plus orienté vers l'addiction. Donc c'est pour ça que, par exemple, dans cette école-là que je pratique moi, il est complètement déconseillé de faire du pranayama, c'est-à-dire des exercices de respiration, avant d'avoir fait plusieurs années de posture, qui sont de toute façon déjà une étape du pranayama. Parce que s'amuser à faire des exercices respiratoires en n'ayant pas encore bien tout nettoyé, en n'ayant pas encore passé les étapes préliminaires et en se trompant, peut-être en faisant ça à partir d'un livre, alors là, on peut se rendre vraiment malade. Mais sans s'en rendre compte, vraiment. Donc c'est à la fois très puissant et à la fois, c'est non plus pas... si on se trompe des fois, c'est pas grave. C'est dans l'ensemble, c'est bien d'avoir des repères, quoi.
Et toi, tu arrives à repérer quand l'un de tes élèves inspire au lieu d'expirer ?
Ah ouais, ça se ressent tout de suite. Parce que c'est vraiment... Ou bien quand les personnes simplement n'arrivent pas à... Ça arrive au début, n'arrivent pas à soutenir la suspension. Donc, quand tout le monde a l'esprit et le souffle suspendu en même temps, on sent quelque chose, une vibration j'allais dire, mais quelque chose comme ça qui est en suspens. Et quand au milieu de ça, il y a une personne qui ne le fait pas, on le sent très bien. Enfin, moi, je le sens, oui, en effet.
D'où l'importance de ne pas le faire tout seul non plus au début, je pense. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, une fois qu'ils ont eu des cours, pratiquent ces exercices seuls. Donc, il faudrait mieux qu'ils aient bien compris la teneur des exercices.
Oui, oui. Surtout, enfin, si c'est des postures encore, le souffle, et c'est pour ça qu'on commence comme ça, le souffle est guidé par l'effort. Le souffle est maintenu et tenu par la position qu'on prend avec le corps. Parce que le souffle suit la position du corps. Mais si c'est des exercices uniquement respiratoires qu'on fait assis comme ça, en bouchant les narines, en comptant des temps, alors ça, non. Enfin, en tout cas, moi, c'est l'enseignement que j'ai reçu. Et c'est aussi, personnellement, quand j'ai fait ça pour essayer d'autres yogas, Je ne nie pas que ça puisse avoir un effet très positif quand c'est guidé, mais ça peut aussi avoir un effet très négatif et rendre complètement confus mentalement, perturbé physiquement. Non, ça je le déconseille complètement, quoi.
Alors Caroline, tu as aussi parlé des mantras. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est un mantra et peut-être aussi, est-ce que tu en utilises dans tes cours ?
Non. Non, nous, dans cette école-là, on n'a pas de mantra à part de réciter le Aum au début ou à la fin. C'est ça. Bien que là, j'ai fait une erreur parce que dans le Aum, le plus important, c'est le silence
après.
Ou avant et après, oui. Donc là, je t'ai un peu coupé ton travail, désolée. Les mantras, non, ça, on ne pratique pas. C'est plus une technique pour nous qui est autre. Mais par contre, il y en a comme Valentin du yoga Kundalini. Lui, il les intègre et c'est vraiment super. Moi, rien que pour ça, je suis contente d'avoir essayé ses cours. Et non, je préfère pas trop m'aventurer. Je risquerais de dire des choses pas assez précises sur ce que c'est que les mantras, du coup. Je préfère rester dans mon domaine.
Ok, donc on n'a pas de définition des mantras. Moi, je me risquerais à dire que ce sont des phonèmes exprimés et qui, par leur taux vibratoire, nous font quelque chose, peut-être.
Oui, oui, hein, et puis qui, du coup, font travailler le souffle aussi en lien avec le corps et qui requièrent toute notre attention. Donc, c'est le même travail, mais c'est l'organe de la voix, enfin, si on peut dire, qui est mobilisé. Mais je pense que c'est quand même beaucoup plus complexe et beaucoup plus riche que ça. Il y aurait sûrement beaucoup de choses à en dire. Voilà, mais...
Oui, on pourrait même parler d'égrégore. Hein. Depuis le temps que les Tibétains psalmodient Om Mani Padmé Hum,
ouais,
ça pourrait créer, selon certains, un égrégore, une espèce de concentration énergétique quelque part dans l'éther
oui,
qui nous pend au nez. Enfin, il y en a des égrégores de toute nature qui serait dans les terres. Je suis d'accord avec toi, nous n'allons pas continuer à spéculer sur ce domaine. Mais ceci dit, avant de commencer cette interview, tu avais éventuellement songé quand même à nous faire partager,
oui,
des mantras, les mantras version Nina Hagen.
Oui, et bah ça c'est un élément qui m'a rassurée un jour de voir que même Nina Hagen elle faisait des mantras et que j'étais pas la seule ancienne punk perdue au milieu des yogis. Donc voilà, c'est un peu affectif, mais j'ai trouvé que c'était bien ce qu'elle avait fait. J'ai bien aimé son disque.
Donc on s'en écoute un petit. C'est parti.
Kali Durge Namo Namma. Kali Durge Namo Namma. Jai Mata Kali, Jai Mata Durge, Jai Mata Kali, Jai Mata Durge, Kali Durge, Namo Namma, Kali Durge, Namo Namma, Kali Durge, Namo Namma. Namo Namma, Jai Mata Kali.
Vous venez donc d'écouter un mantra version Nina Hagen. Je suis toujours avec Caroline Roussel qui est venue nous parler et de ses cours de yoga et de sa prochaine proposition de stage d'Hatha Yoga doublée par une conférence sur l'Ayurveda. Avant d'obliquer vers ses propositions, je voudrais bien que tu me parles un peu de tes cours. Comment ça se passe un cours de Hatha Yoga? Ça dure combien de temps? À qui ça s'adresse? Combien y a-t-il de personnes? Est-ce que ça marche d'ailleurs?
Oui, ça marche pas mal. Là, c'est la deuxième année complète. Enfin, j'avais fait un petit début d'année avant, mais que ça fonctionne. Et il y a des bons groupes à chaque cours maintenant. Ça dure entre 1h15 et 1h30. Et c'est un enchaînement de postures entrecoupées tous les 2-3 fois pendant le cours d'un temps d'observation. Et à la fin, il y a donc les postures sont dans un certain ordre, de manière à mobiliser, à étirer toutes les parties du corps méthodiquement. Et puis elles vont de plus en plus vers quelque chose de méditatif à la fin. Et puis ensuite, il y a une relaxation, on peut dire, qui correspond à du yoga nidra. Donc j'en profite pour dire qu'il y a des cours de yoga nidra qui sont donnés par l'INET. Tout ça, c'est marqué sur le blog de l'association.
Donc tu peux rappeler les coordonnées?
Ouais, c'est associationyoug.eclablog avec un k.com. Et voilà, il y a une petite séance à la fin qui est un peu comme du yoga nidra, mais plus courte, avec une rotation de la conscience, on appelle ça. Donc on prend conscience comme ça, globalement, de toutes les parties du corps, globalement et précisément, en tournant dans toutes les parties du corps. Et ensuite, on peut faire des visualisations, mais ça, moi, je le fais pas trop. Mais surtout, on revient toujours à la conscience du souffle et de tout ce qui se manifeste, que ce soit sous n'importe quelle forme à l'intérieur. Simplement aussi travailler, s'habituer au fait d'être un peu face à soi-même, sans rien qui vient nous disperser ou nous soulager de l'angoisse d'être face à soi-même. Et donc, d'expérimenter en étant accompagné, en étant ensemble, le fait que tout se passe bien, voilà. Là, j'ai trop chaud, là, j'ai trop froid, là, j'ai une tension, là, il se passe rien, là, je sens pas, mais c'est pas grave. Et voilà, ça se termine. En général, à la fin, les gens ils ne parlent plus pas. Il y a un grand silence. Tout le monde se lève et ça reprend tout doucement. Et en général, à la fin, les gens, ils ont l'air vraiment contents. Sur leur visage, le rapport aussi à... qu'ils ont avec moi, je sens qu'ils sont apaisés, quoi. Ça fait plaisir à voir.
Tu en donnes combien des cours, alors? Tu peux nous rappeler les horaires?
Oui, donc je donne 3 cours collectifs et un cours particulier pour une personne qui en a besoin. Et les cours collectifs, c'est les mardis et vendredis de midi à 1h30 au gymnase... au dojo du gymnase derrière Super U. Et donc là, on peut arriver sans prévenir. Il y a une séance d'essai gratuite, voilà. Et ensuite, il y a aussi un cours à Marignac les mercredis soirs à 18h. Pour l'instant, il est à l'ancienne école à côté de la fontaine.
Et il y a encore de la place pour de nouveaux postulants?
Oui. Et donc voilà, ce que j'ai essayé d'instaurer depuis que je travaille, que je dirige moi-même mon projet, c'est de demander un paiement qui soit plus large que simplement de l'argent, Donc j'ai posé des prix minimum pour les gens qui souhaitent payer en argent. Mais il y a aussi une partie, on pourrait dire un tiers de gens qui troquent, enfin qui troquent pas, mais qui échangent du temps de service. Donc par exemple, il y a une personne qui m'a fait les flyers pour le stage, voilà. Et on peut aussi troquer, il y a une personne qui m'amène des paniers de légumes, un cours sur deux par exemple. Enfin, c'est à négocier un petit peu. Voilà, de façon à ce que ça reste modelable. Il y a des gens qui payent la moitié en argent, la moitié en service. Enfin, voilà.
Et c'est combien alors théoriquement le prix de base ?
L'adhésion, c'est 10 euros pour l'année. Le trimestre, c'est 80 euros. La carte de 10 cours, c'est 90. Et le stage, c'est 40.
Voilà, c'est très honnête. Hein, pour quelqu'un qui aurait envie de faire un petit effort pour aller mieux, c'est pas déraisonnable. Tu dis que les cours du mardi et du vendredi sont à midi. Vaut mieux arriver l'estomac vide ?
Oui, bien sûr. Voilà. Oui, oui, oui. Et c'est pas bon de. D'ailleurs, dans le stage, c'est pour ça qu'il y a une conférence après le repas. C'est pas bon de faire du yoga le ventre plein. D'ailleurs, c'est pas bon non plus, contrairement à ce qu'on pourrait parfois penser, de faire du yoga en étant malade. C'est pas une. Comment dire, un soin. Ça peut être préventif, ça peut être équilibrant, ça peut, mais c'est pas un soin le yoga. Et nous, notre maître a toujours dit, d'abord on se soigne, ensuite il faut être bien nourri et chauffé. On va pas faire du yoga si on a froid, par exemple, c'est pas la peine. On va se faire mal parce qu'on étire des muscles qui ont besoin d'être chauffés pour être étirés. Donc le yoga, c'est pas dans toutes les conditions toujours positif de le pratiquer.
Et ce n'est surtout pas du stakhanovisme. Tu connais pas Stakhanov ? Stakhanov, c'était un héros de l'URSS qui était capable de monter une maison en l'espace d'une journée, qui était fort comme un âne et qui forçait sur ses muscles. Non, au contraire, il y a un effort, mais mesuré.
Oui, c'est vraiment l'apprentissage aussi de faire un effort sans faire d'effort. C'est pas faire un effort pour avoir un résultat spectaculaire. C'est aussi un peu en ça que mon école s'est beaucoup différenciée, par exemple, de l'école de Iyengar, qui, lui, avait choisi la voie de beaucoup montrer les postures pour faire connaître le yoga. Bon, c'était sa stratégie. Où là, par exemple, dans mon école, il y a vraiment un rejet, un refus du résultat visuel. C'est-à-dire, la pratique qu'on a, c'est la posture finale qu'on a. On ne s'intéresse pas à quoi elle ressemble. C'est de l'intérieur qu'on la travaille. Le travail se fait intérieurement, parce que c'est le travail du souffle. Et une personne ayant réalisé une posture absolument extraordinaire n'aura peut-être absolument pas fait de yoga si elle n'a pas réalisé le travail intérieur du souffle. D'ailleurs, même personnellement, parfois ça peut m'arriver, à tout le monde ça peut arriver, de négliger le souffle. C'est une tendance humaine qui est toujours présente et contre laquelle il est nécessaire de lutter, puisque le souffle, ça ne se voit pas. Donc on a tendance à le négliger. Et donc c'est important de toujours ramener cette histoire au centre, non pas pour le sacraliser, mais simplement pour ne pas en perdre le côté puissant, quoi.
Le pont entre le conscient et l'inconscient, diraient les bouddhistes.
Entre autres, ouais.
Alors maintenant, on pourrait peut-être se pencher un peu sur ta proposition concrète qui aura lieu le 23 novembre de 9 à 12 et de 14 à 18 à ce fameux dojo du gymnase de Die.
Oui.
Que va-t-il s'y passer ce jour-là ?
Donc alors, moi j'assurerai les séances de pratique posturale, il y en aura une de 9h à 11h le matin. Et de 11h à midi, il y a Benjamin Martineau qui fera qui guidera la méditation que lui il préfère appeler pleine présence, et qu'il guide en tant que futur je ne sais pas comment on appelle ça dans ce domaine, mais enfin il est formé en ce moment à l'école occidentale de méditation pour ensuite diriger des méditations comme ça. Donc là c'est un petit entraînement qu'il va faire et dont on pourra profiter au stage. Entre midi et deux, la salle sera ouverte. Le repas n'est pas pris en charge, mais il y aura des livres, on pourra faire une sieste, en dehors du fait qu'on chaque personne mangera son pique-nique. Et l'après-midi, donc, c'est Alice Bruyant, qui est consultante en Ayurveda, qui est dans un centre qui s'appelle le centre Éveillescence, là-bas dans la vallée de Quin, qui va faire une initiation à la médecine ayurvédique. Elle fera ça de 14h à 15h30. Ensuite, on fera à nouveau une séance de yoga que je dirigerai. Et puis, un petit temps de yoga nidra à la fin pour partir tranquille.
Alors, juste pour les béotiens qui pourraient toujours nous écouter, qui pourraient nous écouter, qu'est-ce que la médecine ayurvédique, quand même, un petit rappel.
La médecine ayurvédique, c'est un ensemble très large de pratiques et de disciplines dont peut faire partie le yoga. Mais bon, voilà, il y a des repères sur la nutrition, sur des tas de... il y a des aspects qui sont aussi proches de la médecine chinoise avec des points comme les points d'acupuncture, mais là ça s'appelle des marmas. C'est tout un mode de pensée vraiment précis dont je pense que Alice saura mieux parler que moi, c'est pour ça que je la fais intervenir, et qui est la médecine, enfin la discipline de santé qui sous-tend, qui est lié avec la pratique du yoga. Voilà, c'est la même tradition. Et...
Donc une journée passionnante en perspective.
Oui, tout à fait.
Alors comment fait-on pour s'inscrire? Effectivement, vaut mieux s'inscrire? On te téléphone?
Ah oui, il faut s'inscrire en me téléphonant, je voulais dire, au 06 88 98 35 93. Et c'est bien de, voilà, pas trop tarder, puisque c'est dans 10 jours.
Très bien. Eh bien, Caroline, je te remercie d'être passée à la radio, de nous faire confiance pour assurer la promotion de ce stage. Juste avant de se quitter, qu'est-ce que tu fais pour assurer la promotion de tes activités? Ça vient naturellement, le bouche-à-oreille? Je sais qu'on t'avait vu au Forum des associations, ça a fonctionné? Tu as eu des postulants au Hatha Yoga par l'intermédiaire du Forum des associations?
Oui. Le forum, en fait, ça marche assez bien parce que c'est un moment vraiment posé où on peut discuter. Les personnes qui, de toute façon, seraient intéressées à ce moment-là peuvent me voir, elles peuvent voir à qui elles ont affaire en tant que prof, déjà sentir si ça va leur aller ou pas, parce que quand même ça compte, et obtenir des informations plus générales. Je pense que ça marche pour des personnes qui ont envie mais sont pas encore sûres, mais en fait viendront peut-être l'année prochaine, mais comme on a déjà parlé, elles ont quand même bien repéré que ça c'était ça, et que voilà, pour différencier avec d'autres écoles. Et oui, le forum, ça marche bien, je trouve. C'est vraiment un rendez-vous que je loupe pas. Et puis à part ça, il n'y a pas grand-chose. C'est toi, Louis, merci, qui m'aide à faire ça. Sinon, à part ça, j'ai les flyers qu'une élève a faites et les cartes de visite. Voilà, ces petites annonces.
Et puis le bouche-à-oreille, ça doit fonctionner.
Oui, c'est surtout comme ça que ça marche, en vérité.
Très bien, bonne continuation. Et puis bon stage et à très bientôt.
Ouais, merci Louis,
au revoir.
À très bientôt.
Interview. Hey, the bird.
L'interview du jour.